Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous voici donc aujourd'hui au jour de Noël. Cette semaine, j'ai eu entre les mains le petit hebdomadaire gratuit qui parle des événements locaux et des circonstances du moment. Évidemment, en première page, il était question de Noël, du Père Noël, et dans les pages intérieures, des différentes manières de fêter cela en famille, chez soi, de divers menus de fête, de programmes de distraction pour la circonstance, de cadeaux, de publicités pour divers commerces, mais j'ai vainement cherché la moindre référence à ce qui est historiquement à l'origine de Noël, c'est-à-dire le rappel de la naissance de Christ avec toutes les conséquences merveilleuses pour le salut de l'humanité. Pas la moindre allusion, même indirecte, au sens spirituel de cette célébration. Je ne pense pas que les éditeurs et journalistes de ce périodique soient spécialement contre le christianisme. J'ai pu d'ailleurs constater le même phénomène dans une autre revue gratuite, deux jours plus tard, consacrée, elle, plus encore, à parler de tous les aspects de cette période. Mais il s'agit, selon toute probabilité, d'un oubli pur et simple, ou de considérer cela désormais au XXIe siècle comme quelque chose de tellement insignifiant que c'est même plus la peine de le mentionner. Et ceci devrait certainement rappeler à tout véritable chrétien l'importance d'annoncer l'Évangile dans une société de plus en plus païenne et déchristianisée. Ceci devrait mettre dans nos cœurs, comme une priorité de plus en plus pressante, la nécessité d'être des témoins de Christ, de celui qui un jour décida de venir dans un corps de chair semblable au nôtre, d'y montrer un exemple parfait de vie selon Dieu, d'y enseigner son merveilleux Évangile, puis de mourir sur la croix en sacrifice d'expiation pour nos péchés, avant de ressusciter pour manifester sa victoire sur le péché et sur la mort, puis d'être élevé et glorifié. Grâce à cela, oui, joyeux Noël à tous. Voici un témoignage, un beau témoignage. Un matin, Rob venait à peine de s'éveiller quand il prêta l'oreille. Depuis la cuisine de leur petite ferme familiale de l'Ouest américain, une conversation parvenait jusqu'à lui. Marie, je n'aime pas du tout réveiller Rob de si bonne heure. Il grandit si vite et il a besoin de sommeil. Si tu voyais comme il dort quand je vais le sortir du lit, je voudrais bien pouvoir me tirer d'affaire tout seul. C'était la voix de son père. Mais non, Adam, tu sais bien que ce n'est pas possible, répondit la maman sur un ton déterminé. D'ailleurs, ce n'est plus un enfant. Il est temps qu'il fasse sa part des travaux de la ferme.
Oui, bien sûr, répondit le père lentement. Mais vraiment, cela me coûte de le réveiller.
Quand Rob entendit ces paroles, quelque chose s'éveilla en lui. Il venait de comprendre combien son papa l'aimait. Désormais, il ne traînerait plus le matin et n'attendrait plus d'être appelé plusieurs fois. Il se leva donc immédiatement et, encore tout ensommeillé, à pas hésitant et les yeux à demi fermés, il s'habilla et s'en alla retrouver ses parents. Puis, peu de temps après, vint la veille de Noël. C'était l'année de ses 15 ans. Il était couché depuis quelques minutes lorsqu'il se mit à penser au lendemain. Il aurait voulu avoir un plus beau cadeau à offrir à son père. Comme d'habitude, il était allé à la boutique à 10 cents. Elle lui avait acheté une cravate. Elle lui avait semblé assez jolie jusqu'à ce soir où, en y réfléchissant, il aurait souhaité avoir entendu cette conversation à temps pour effectuer un meilleur achat. Il était étendu sur le côté, la tête sur le coude, et regardait par la fenêtre mansardée. Les étoiles brillaient plus que jamais, et l'une d'elles en particulier d'un si bel éclat qu'il se demanda si ce n'était pas l'étoile de Bethléem. « Papa, avait-il demandé un jour quand il était petit, c'est quoi une étable ?»«
Une étable. Une crèche, avait répondu son père, comme la nôtre. »
Ainsi, Jésus était né dans une crèche, et les bergers étaient venus vers une crèche, tout comme les mages apportant leurs présents. Cette pensée le frappa. Pourquoi n'offrirait-il pas, lui aussi, un cadeau spécial à son père, ici, dans cette crèche? Il pourrait se lever de bonne heure, avant 4 heures, se glisser dans l'étable et traire les vaches. Il le ferait tout seul, nettoierait tout, et quand son père viendrait, il verrait que tout était fini, et il saurait qui avait fait ce travail. Il rit en lui-même à cette idée en regardant les étoiles. Il ne fallait pas qu'il dorme trop profondément.
Il se réveilla peut-être 20 fois, craquant une allumette pour regarder sa montre. Minuit, 1h30, 2h. À 3h moins le quart, il se leva et s'habilla. Il descendit doucement, prudemment, prenant garde à ne pas faire craquer les marches, et sortit. La grande étoile était descendue plus bas sur le toit de l'étable et brillait comme de l'or rouge. Les vaches le regardaient, à demi endormies et surprises. Il était tôt pour elles aussi. Il alla chercher du foin pour chacune, puis il prit le seau et les grands bidons. Il souriait, pensant à son père, et tandis qu'il trayait d'une main assurée, deux puissants jets de lait mousseux et parfumés se précipitaient dans le seau. La tâche fut pour lui plus aisée qu'elle ne l'avait jamais été. C'était un cadeau pour son père qu'il aimait. Il termina la traite, les deux bidons étaient pleins. Il mit les couvercles et ferma soigneusement la porte de la laiterie. Il rangea la chaise à sa place près de la porte, suspendit le seau à lait bien nettoyé et sortit de l'étable. De retour dans sa chambre, il ne disposait plus que d'une minute pour enlever ses vêtements dans l'obscurité et sauter dans son lit, car déjà il entendait son père monter. Il eut juste le temps de rabattre les couvertures sur sa tête pour étouffer sa respiration haletante quand la porte s'ouvrit. « Rob, l'appela son père, il faut te lever, mon garçon. »« D'accord, répondit l'adolescent d'une voix endormie. « Je te laisse, je vais commencer, ajouta le père. » La porte se referma et Rob demeura étendu, tout heureux de la surprise qui attendait son papa. Dans quelques minutes, celui-ci saurait. Les minutes s'écoulèrent, interminables. 10, 15, il ne savait pas au juste, quand il entendit à nouveau un bruit de pas. « Rob ! Oui, papa ! Tu m'as bien lu, n'est-ce pas ?» Le père riait, d'un rire étrange, mêlé de sortes de sanglots, tout en s'approchant du lit et en enlevant la couverture. « C'est pour Noël, papa !» Se disant, il étreignit son père et l'embrassa, tandis que celui-ci l'entourait de ses bras. « Merci, mon fils. Personne n'a jamais fait quelque chose d'aussi gentil. « Oh, papa, je voudrais que tu saches !» Les mots se brisèrent. Il ne savait plus quoi dire. Son cœur éclatait d'amour. « Eh bien, je pense que je peux retourner me coucher, » dit le père au bout d'un moment. Puis se ravisant, « Non, les petits sont déjà debout. Je viens de penser que je ne vous ai jamais vu, vous les enfants, quand vous découvriez pour la première fois l'arbre de Noël. J'étais toujours dans la crèche. Viens !» Rob se leva et se rhabilla, et ils descendirent ensemble vers le sapin. Déjà le soleil se levait, là où auparavant se trouvait l'étoile. Oh, quel beau Noël ! Et comme son cœur fut encore près d'éclater, quand son père raconta à sa mère et à ses frères et sœurs que lui, Rob, avait fait tout le travail tout seul. Le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais eu. Et je m'en souviendrai, mon fils, chaque année, le matin de Noël, aussi longtemps que je vivrai. Voilà, c'est une histoire vraie, bien sûr. Et puisque c'est Noël, eh bien voici une deuxième histoire, un deuxième récit authentique lui aussi. C'était le 23 décembre 1920, à 17h30. Hans Widmer Müller vient d'être convoqué au bureau du directeur de la fabrique où il est ouvrier, dans le canton de Zurich, en Suisse. « Alors Hans, vous ne pouvez pas nier que c'est vous qui... » Le directeur, qui semblait jusque-là consulter un registre posé devant lui, ne peut s'empêcher de lever les yeux sur le jeune homme à l'expression calme et pure, au regard droit et honnête, qui se tient là, debout. Mais n'étant pas homme à faire du sentiment, il est bien décidé à liquider l'affaire en quelques minutes. Et puis cela fera une prime de fin d'année en moins. Il poursuit donc. « Que c'est vous qui avez volé le porte-monnaie de Kurt Watcher ?» Puisque trois hommes dignes de foi vous ont pris en flagrant délit. Sachez donc que vous êtes congédié dès maintenant. Et inutile de me demander un certificat, je n'ai pas l'habitude d'écrire des mensonges. Vous pouvez sortir. » Et voilà. Deux jours avant Noël, Hans vient de perdre son travail, au moment où il est le plus difficile d'en retrouver. Il était entré à la fabrique en février, peu après la mort de sa mère. Il n'avait pas connu son père. Il était fils unique et se trouvait donc seul au monde. Mais Hans savait que son Père Céleste veillait sur lui. Il connaissait Jésus, son Sauveur, le Fils de Dieu,
qui avait supporté d'innombrables outrages, qui était mort sur la croix pour lui. Hans, pour le faire passer de la mort à la vie, de la douleur au bonheur, de l'état de pécheur à celui de gracié. Et c'était bien là la meilleure part. À l'usine, Hans avait été bien souvent en butte aux moqueries et aux tracasseries de ses camarades de travail, qui sabotaient son ouvrage, déréglaient les machines, cachaient les outils dont il avait besoin. Sa dernière comparution devant le directeur avait été précédée de plusieurs autres, au cours desquels il avait reçu des avertissements et vu son salaire diminuer. Le voilà rentré maintenant dans sa froide mansarde d'un immeuble de pauvre. Il a encore des vivres pour quelques jours. Que faire ? Sans attendre, il se met à genoux. Il prie pour ses camarades qui, même s'ils ont gagné, entre guillemets, courent à leur perte. Et c'est le froid qui vient lui rappeler de boire quelque chose et de se coucher. Le lendemain matin, après un sommeil profond et très paisible, Hans s'étonne lui-même d'être si peu tourmenté face à un avenir aussi sombre. Il sent nettement que ses camarades et même le directeur sont plus à plaindre que lui. Alors, il se met de nouveau à genoux. Mais tout à coup, le bruit d'une lourde masse qui s'abat devant sa porte le fait sursauter. Hans ne fait qu'un bond, il ouvre, et reconnaît, étendu à terre, Ulrich Hassler, celui qu'il avait accusé de vol. Après beaucoup d'efforts, Hans parvient à asseoir Ueli, c'est le diminutif de cet homme, sur l'unique chaise de la pièce. C'est alors que celui-ci revient à lui. Il est bouleversé. Au bout d'un moment, profondément ému, les larmes aux yeux, il peut parler. « J'ai passé une nuit atroce. J'ai compris que c'est toi qui as raison. Que ce que tu dis est vrai. Oh, pardonne-moi. C'est moi qui ai volé le porte-monnaie. C'est moi aussi qui commandais quand on te tendait des pièges. La fabrique ferme à midi aujourd'hui, mais il faut absolument que j'aille d'ici là tout avouer au patron. Hans, pardonne-moi. » Le directeur aussi a passé une très mauvaise nuit. Il a fini par prendre un cachet pour dormir, mais il demeure très mal à l'aise. À la fabrique, certains employés, ayant remarqué son humeur exécrable, commencent même à craindre pour leur prime. Il est assis à son bureau quand on frappe à la porte. « Entrez !» crie-t-il d'une voix peu engageante. Voyant Hans, il commence par le rabrouer, mais Ueli s'avance, un paquet à la main. Pas très rassuré, il le pose à 10 centimètres de la main du directeur. « C'est moi qui l'ai volé. C'était pour faire accuser Hans, comme d'ailleurs chaque fois que moi et les autres nous nous sommes plaints de lui. C'est moi qui mérite d'être congédié. » Surpris, le directeur l'écoute jusqu'au bout. Il se sent lui aussi déchargé d'un fardeau. Ne voulant pas laisser paraître son émotion, il se lève et dit « Non, Ulrich, tu as reconnu ta faute, tu ne seras pas renvoyé. » Puis il se rassied, griffonne un billet, le tend à Hans, avec dans les yeux une expression de sympathie jusqu'alors inconnue. Les nouveaux amis sortent du bureau. Le billet est adressé au comptable. Il porte ces mots « Payez ce jour 200 francs de prime à Hans Widmer Müller. » 200 francs suisses de 1920, c'est une somme considérable. « Et augmentez-le de 50 francs par mois. » Signé Franz Peter, directeur. À peine en ont-ils terminé la lecture que la porte s'ouvre sur le corridor. Cette fois, le directeur est rayonnant. Il serre la main à chacun. « Fröhliche Weihnachten !» Ça veut dire « Joyeux Noël !» dans le plus beau des dialectes zurichois. Voilà, mes amis, un autre témoignage d'une belle œuvre de Dieu dans ces moments-là. Et puis, nous voulons ouvrir la parole du Seigneur maintenant et lire en Évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 1er, ce texte bien connu, du moins de bien des chrétiens, et malheureusement méconnu de beaucoup d'autres. Et c'est pour cela que nous voulons le considérer maintenant. Nous voulons prier tout d'abord. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour ce rappel de ta naissance, qui a été pour nous quelque chose de tellement précieux, quelque chose de tellement extraordinaire, quelque chose de tellement bénéfique de la part du Dieu Tout-Puissant. Une telle démonstration, une telle preuve d'un amour évident. Et nous te rendons grâce pour cela de tout cœur encore maintenant. Bénis chacune et chacun par la méditation de ta parole. Amen. Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. » J'ai retrouvé, il y a peu de temps, un article de la revue Mag Info, c'est un périodique de la région de Chalon, Vitry, Sainte-Menehould, avec leurs arrondissements respectifs, qui datait d'il y a une dizaine d'années et qui était assez représentatif de la mentalité ambiante et des opinions générales en ce qui concerne Noël. Et je vous lis ceci en introduction. Ça avait pour titre « Noël, la fête aux multiples symboles ». Alors, voilà. Noël est un moment festif et familial. Toutefois, c'est aussi une fête aux multiples dimensions, de par son évolution au fil des siècles. À la base religieuse, elle s'est étendue comme phénomène communautaire. Lorsque le christianisme s'étend dans les premiers siècles de notre ère, la commémoration de la venue au monde du « Messie » entre guillemets n'existe pas. En effet, cette tradition qui consiste à fêter un anniversaire est païenne. Elle ne fait donc pas partie des traditions judaïques, racines du catholicisme. Seule la Pâque, le symbole de la résurrection, est célébrée dans les premiers siècles de cette nouvelle vision du monde. Toutefois, c'est dans l'espoir de vaincre les rites païens, et surtout celui de Mitra, qui fête le retour de la lumière au solstice d'hiver, que l'empereur Constantin et le pape Libérus, au IVe siècle, en 354 pour être plus précis, décident d'arrêter la date de naissance du Christ au 25 décembre, une décision qui intervient quelques années après le concile de Nicée en 325, concile qui a porté sur la définition des croyances et sur le calendrier des fêtes religieuses chrétiennes. Aujourd'hui, l'esprit de partage et de générosité semble avoir traversé les frontières de la religion. Car, peu importe ses croyances, l'esprit de Noël semble être devenu universel. En effet, le caractère religieux semble s'atténuer et même être devancé par la fête familiale qui réunit les adultes et les enfants autour du sapin pour la traditionnelle distribution des cadeaux. Mais en attendant ce grand moment, plusieurs activités peuvent être organisées par les communes, comme les marchés, les chorales et encore plein d'autres festivités qui font le bonheur des petits et des grands sans qu'aucune appartenance religieuse ne s'affiche, l'essentiel étant l'esprit de paix et de partage. Voilà, ça c'était, comme je vous l'ai dit, il y a une dizaine d'années. Cet article n'est pas le pire qu'on pouvait trouver sur le sujet. Il y était au moins question des origines historiques du calendrier de Noël, du fait qu'il s'agit au départ malgré tout d'une fête religieuse, ce que beaucoup ne savent même plus aujourd'hui. Il est question d'esprit de partage, de générosité. Et puis vous avez tout l'aspect fête familiale, sapin, cadeau. Voilà, on entre là dans l'aspect festif, commercial aussi. Et puis voilà qu'il est question de marché, de chorale, de festivités de toutes sortes. Et puis en approchant de la fin, on affirme qu'il n'y a plus là aujourd'hui aucune appartenance religieuse. Et on nous dit que demeure l'essentiel, l'esprit de paix et de partage. Tout cela est très consensuel, très passe-partout et très vague aussi. On se demande si les grandes manifestations de paix, de partage et de fraternité existent bel et bien, et où sont-elles ? À part la trêve des confiseurs et le partage de la dinde, du foie gras, du chapon. Et je dirais que, spirituellement, nous discernons toujours derrière cela les bonnes vieilles méthodes de l'ennemi des âmes, de Satan, pour nous faire perdre de vue le plus important et nous écarter de ce qui nous serait pourtant profondément salutaire dans cette célébration. Voilà, sa tactique, c'est de multiplier les raisons pour lesquelles fêter Noël, rester surtout dans le vague, pour en arriver à la confusion, se gargariser de grands principes, mais qu'on ne met pas vraiment en pratique, ou alors au travers d'une vague aumône pour se tranquilliser la conscience. Perdre de vue le principal, oublier le plus important, et ainsi nous enfoncer dans la médiocrité et dans la position de consommateur, béat et parfois même abêti. Et c'est pourquoi le travail du prédicateur en ce jour consiste à rappeler des faits basiques et primordiaux. Déjà, première chose importante, il faut éclairer le personnage central. Sur l'une de ses toiles, le peintre Rembrandt a représenté la naissance de Jésus-Christ. Pour ce tableau, il a utilisé la technique du clair-obscur. Un rayon de lumière éclaire le nouveau-né, alors que tous les autres personnages de la scène sont dans l'ombre. Cela montre le désir de l'artiste de fixer le regard du spectateur sur le personnage central de la nativité, Jésus-Christ. Le vrai sens de Noël, c'est mettre au premier plan Jésus, le Fils de Dieu venu sur cette terre pour nous sauver. Dieu lui-même venu parmi les hommes. Jésus a grandi et a accompli la mission pour laquelle il était venu. Donner sa vie en sacrifice pour le péché du monde. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Lui seul peut apporter la véritable lumière dans les ténèbres de notre monde. Lui seul peut nous délivrer du mal, donner un sens à notre vie et nous révéler l'amour de Dieu, le Père, pour nous. Parce qu'il a vécu comme un simple homme sur la terre, il peut donc nous comprendre lorsque nous souffrons. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Seigneur tout proche de nous. Si nous nous tournons vers lui, il mettra en lumière ce qui ne va pas dans nos vies et nous aidera à changer de comportement. Avec lui, nous verrons la vie sous un angle tout nouveau. Mettre Jésus au centre de ma vie, c'est posséder aussi une espérance solide, celle d'être sauvé pour l'éternité. En ce temps de Noël, fixons nos regards sur celui qui est l'origine et le centre de cette fête, le Seigneur Jésus-Christ. Noël est avant tout au départ la fête de la Nativité, même si pour des raisons plus ou moins valables, elle a été mise à cette date. Mais pour chacun de nous, l'important est de réaliser que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Un autre grand point, une autre grande chose qu'il nous faut réaliser, c'est l'humilité et la simplicité de la venue de Jésus sur cette terre. Jésus n'est pas venu comme un surhomme. De nombreuses peintures illustrent des scènes de la vie de Jésus-Christ, souvent représentées avec une auréole et des traits un peu efféminés. En réalité, Jésus avait une apparence tout à fait ordinaire. Comme n'importe quel bébé, il est né d'une femme, mais il a été conçu par l'intervention de l'Esprit de Dieu. Il a connu les dépendances d'un enfant, a dû tout apprendre, jusqu'à son métier de charpentier. Il a appris à manier les outils, a connu des joies et des peines, la douleur et la souffrance. Parce qu'il a vécu ainsi au milieu des hommes, il comprend nos besoins. Une chose le différencie pourtant de nous. Il a toujours fait la volonté de Dieu sans jamais commettre de péché. Car bien que parfaitement homme, il était aussi pleinement Dieu. Les chefs religieux juifs espéraient que Jésus devienne un roi qui les libère de l'occupant. Ils ne comprenaient pas sa mission. En s'incarnant dans le corps de Jésus-Christ, Dieu voulait réconcilier les hommes avec lui, les délivrer du mal et de ses conséquences. Mais Jésus-Christ, Dieu fait homme, n'a pas été accueilli parmi les hommes à sa naissance. Il a été méprisé par ceux qu'il aimait et condamné injustement à la peine capitale de l'époque, la mort sur une croix. Il a accepté de subir cette mort alors qu'il aurait pu utiliser ses pouvoirs divins pour descendre de la croix. Mais là, s'est terminée volontairement la mission terrestre de Dieu fait homme. Cependant, sa vie offerte en sacrifice, loin d'être un échec, a été le prix qu'il a payé pour que tout homme puisse obtenir le pardon de ses fautes. Ah, il est vrai que dès que nous parlons de la naissance de Jésus, nous sommes entraînés plus loin à considérer sa vie sur cette terre, et puis sa mort, son sacrifice sur la croix. Et tout ceci nous amène immanquablement à sa résurrection. Et ceci est destiné à nous amener à la repentance, à la réception de Christ dans notre cœur, comme notre Sauveur et Seigneur. Surtout, et ça c'est notre troisième point, surtout si nous réalisons alors la grandeur de son amour pour nous. Pour chacune et chacun de nous, depuis sa naissance, jusque sur la croix et au-delà jusqu'à aujourd'hui. Et sa volonté, c'est qu'il puisse en être ainsi dans l'éternité. On raconte l'histoire de ce jeune couple qui avait adopté une fillette asiatique prénommée Marina. Un jour, à l'école maternelle, un petit camarade de Marina annonce tout content que sa maman porte un bébé dans son ventre. Marina lui répond alors fièrement « Moi, ma mère, elle m'a porté dans son cœur. » Et cette anecdote est une belle illustration de l'amour merveilleux de Dieu pour nous. Adopter un enfant est une démarche que l'on choisit parce que l'on désire donner de l'amour. La Bible dit que Dieu nous aime parce qu'il est dans sa nature même d'aimer. Dieu aime chaque personne, sans faire de différence, que l'on soit pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, que l'on ait de petites ou de grandes capacités intellectuelles, chacun peut vraiment avoir une place dans son cœur de père. Il veut nous adopter afin de faire de nous ses enfants. Le besoin d'amour est fondamental chez tout être humain. Un enfant mal aimé se développe difficilement et traîne toute sa vie des blessures et un vide qui ne peut jamais se combler. Pour certains, c'est à l'âge adulte qu'ils vivent des rejets de leur famille ou d'autres personnes pourtant aimées. D'autres pensent qu'ils sont trop mauvais pour être aimés. Mais Dieu peut nous rejoindre au plus profond de nos chutes affectives. Dans la personne de Jésus-Christ, c'est le Dieu d'amour qui vient à la rencontre des hommes. Cet amour dépasse ce que je peux comprendre, mais il est là, disponible pour chacun. Beaucoup en font régulièrement l'expérience et peuvent dire comment leur vie en a été transformée. Combien Jésus est celui qui peut aimer parfaitement tout homme, quel qu'il soit, et lui manifester un amour parfait, parfaitement adapté à son cas, à son état et à sa situation, et qui répond à tous les besoins de son corps, de son âme, de son être entier. Enfin, en quatrième, notre quatrième point, combien il nous faut insister sur le fait que Dieu veut sauver et aimer même ceux qui se considèrent comme les plus indignes de cet amour. Lors d'une célébration à la cathédrale de Canterbury, en 2008, un prédicateur de l'église anglicane a déclaré « Dans une société où nous pensons que tant de choses sont jetables, dans laquelle nous aspirons à mettre au rebut le gadget de l'année passée pour le remplacer par celui de cette année, va-t-on finir par penser que les gens et relations entre les personnes sont aussi jetables ?» La plupart du temps, nous ne pensons pas à l'avenir avec réalisme, a-t-il ajouté, précisant que Dieu ne produit pas de déchets et ne considère pas la vie humaine comme jetable. Dieu ne produit pas de déchets et ne considère pas la vie humaine comme jetable. La vie humaine est importante et précieuse, tel est le point de vue de Dieu. Il y a plus de 3000 ans, David, un roi qui aimait Dieu, disait dans sa prière, « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. » Et il réalisait combien ce que Dieu accomplissait était prodigieux. C'est dans le psaume 139 au verset 14. « Ma vie, comme la vôtre, a une valeur infiniment précieuse, puisqu'elle a été créée et voulue par Dieu. » Dans notre société, certaines personnes sont considérées comme n'ayant aucune valeur. N'acceptons pas ce jugement faux. Pour Dieu, personne n'est un accident, entre guillemets, quelles que soient les circonstances de sa venue au monde. Vous êtes une créature unique et Dieu vous aime. Il a de la considération pour vous. Si votre regard sur vous-même est négatif, celui de Dieu est d'abord un regard d'amour. Faites confiance à Dieu qui peut restaurer votre vie, guérir votre identité blessée, donner un sens à votre vie et vous permettre de retrouver votre dignité. Jamais on ne parlera assez de la réalité de l'amour de Dieu, de son amour personnel pour chacune de ses créatures. Mais pour que cet amour puisse avoir ses effets pour vous,
pour que nous puissions en bénéficier vraiment, comme il nous faut y répondre, comme il nous faut venir à lui. En conclusion, deux citations. Une de Martin Luther, prononcée dans son sermon de l'après-midi du jour de Noël 1530. Voilà ce qu'il a dit. Nous ne croyons pas vraiment que la Vierge a donné naissance à un fils et qu'il est le Seigneur et le Sauveur, sauf si, en plus de cela, je crois une seconde chose, c'est-à-dire qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Je redis cette citation. Nous ne croyons pas vraiment que la Vierge a donné naissance à un fils et qu'il est le Seigneur et le Sauveur, sauf si, en plus de cela, je crois une seconde chose, c'est-à-dire qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Et si je retourne plus encore en arrière, dans le temps, le mystique Angelus Silesius a écrit « Si le Christ était né 1000 fois à Bethléem, mais pas en toi, tu serais perdu pour l'éternité. » Célébrer la naissance du Fils de Dieu nous invite à naître à notre tour, d'eau et d'esprit, en grâce et en liberté. Laissez le Seigneur naître en moi, pour que je puisse moi aussi naître à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand et merveilleux message d'amour qu'on ne décrira jamais avec des mots suffisants, avec des expressions qui conviennent parfaitement, mais qui, cependant, doit être proclamé. Avec le secours de ton esprit, pour qu'une bonne œuvre se fasse dans le cœur de tous ceux qui le reçoivent, avec une âme bien disposée. Merci Seigneur pour cette bénédiction, ce grand salut que tu accordes et qu'en ce jour encore, eh bien, tu donnes à ceux qui se confient en toi. Sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Voilà mes amis, en conclusion, eh bien, je vous rappelle simplement notre culte dimanche à l'église, Dieu voulant donc. Premier culte à 8h30, deuxième à 10h45. Merci de vous inscrire sans tarder, soit en ligne sur notre site, soit par téléphone. Sinon, la réunion de prière le mercredi soir, je vous rappelle, a lieu à 18h, en tout cas pour l'instant, le temps du couvre-feu. Mais quoi qu'il en soit, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous dans ces temps de Noël. Et à bientôt.